Alors aujourd'hui, on fait une petite session lecture de PV. Donc on va essayer de lire le PV de Bernard Laroche. Enfin, on va voir si on peut en lire plusieurs, mais on va essayer d'abord avec le premier. Et puis on va faire un brainstorming. En fait, on n'est pas seul, hein, on est plusieurs. Essayer de décortiquer tout ça, de réfléchir sans but, hein, d'essayer juste de voir s'il y a des choses qui nous interpellent. Donc on va commencer avec le premier PV.
Alors, je suis le fils de Marcel et de Jacob Thérèse, tous deux décédés. Ma mère était la sœur de Villemain Monique, grand-mère de la victime. Je suis fils unique. Ma mère est décédée à ma naissance le 24 mai 1955. J'ai donc été élevée depuis que je suis née par ma grand-mère maternelle, Jacob Adeline, qui était domiciliée à Aumont-Zaire. Mon père est décédé le 1er juin 1982 de maladie. J'ai connu Mademoiselle Bolle, Marie-Ange, à Lavelines de Vambruyère. Et nous nous sommes mariés le 8 mai 1976, Audilieu. De notre union est né un fils, Sébastien, le 4 septembre 1980, à Bruyères. À l'âge de 6 mois, il a été opéré d'un kyste à la tête. Et depuis cette date, il porte en permanence un drain. Il est suivi régulièrement par notre médecin traitant, le docteur Messin à Granges-sur-Vologne. Et tous les 6 mois, il est vu par le professeur Manteau de l'hôpital Saint-Julien à Nancy. Depuis 1972, je travaille au tissage Ancel à Granges-sur-Vologne. J'occupe les fonctions de délégué du personnel au comité d'entreprise depuis 1 mois et demi. J'ai été promu contremaître au sein de cette usine. J'estime juste cette promotion, car sur ma demande et depuis 6 années, je postule pour ce poste. J'ai suivi durant 2 années à l'école de la filature à Épinal de 1978 à 1979 des cours de régleur de métier à tisser et a obtenu mon CAP en 1980.
Là, on a une information qui est intéressante quand même, c'est que ça fait 6 ans qu'il postule pour être contremaître.
Que j'allais dire, il a galéré.
Il a vraiment galéré. Ouais. Quand on compare ça à Jean-Marie qui lui va être promu contremaître alors qu'il n'a pas les qualifications nécessaires, c'est vrai que c'est assez dur.
Oui, mais il avait le désir d'être contremaître avant Jean-Marie.
Ils voulaient tous être contremaîtres, à mon avis.
Jean-Marie n'avait pas forcément. Peut-être que Jean-Marie n'avait pas, lui, le désir d'être contremaître. Enfin, il y avait certainement l'envie de s'élever au niveau de son entreprise, mais alors que lui, Bernard, c'était déjà. Ça faisait déjà un moment qu'il voulait devenir contremaître. En tout cas, sans dire long sur sa détermination, c'est ça qui est intéressant.
En 1980, sur un terrain appartenant à mon père, au lieu-dit La Fosse, à Aumont-Zaire, j'ai fait construire une maison de type F5. Depuis ma jeunesse, je connais la famille Villemain, puisque nous avons toujours habité ensemble, le même quartier. J'ai fréquenté assidûment Villemain Michel, et c'est par lui que je connais, dans les moindres détails, la situation familiale de cette famille. Toutes les réunions et festivités entre eux sont portées à la connaissance par Michel, par lui, mais également par sa mère. J'étais parfaitement au courant de l'envoi de lettres anonymes. J'ai d'ailleurs été amenée à lire certains de ces documents et à écouter des enregistrements sur cassette. Ça, c'est intéressant. Il les a déjà écoutés et même lus, du coup.
Et puis, encore une fois, il connaît la situation familiale dans les moindres détails par Michel. Donc ça aussi, il lui dit...
Il le cache pas.
Alors, il a toujours été question qu'il s'agissait de Jackie, l'auteur de ses envois, ainsi que de sa femme. J'ai participé au sein de cette famille à des débats sur l'éventuel auteur des envois de courrier anonyme, et toujours Jackie revenait sur la sellette. Je connais parfaitement Jackie, sans pour autant le fréquenter. La dernière fois que je l'ai rencontré, remonte à environ 2 mois, alors qu'il effectuait des travaux de maçonnerie. Il m'a fait visiter son habitation. Je sais que le père de Jackie n'est pas son vrai père. C'est lui-même qui me l'a appris et j'étais présent lorsqu'il a posé cette question à sa grand-mère. Il est fort possible que j'aie déjà parlé des problèmes de la famille Villemain à des personnes autres que la famille. sans pour autant me souvenir à qui j'en ai parlé, ni ce que j'ai pu divulguer. À ma connaissance, personne ne m'a questionné plus que la normale sur les problèmes vivants.
Alors là, peut-être une petite pause. On voit qu'il charge quand même beaucoup Jackie. Donc il dit Jackie était revenait souvent sur la sellette.
Surtout, il charge Jackie, mais il le sait très bien que Jackie est victime aussi du corbeau.
Il le sait, et en plus, avant ça, il a même demandé à Marie-Ange d'aller prévenir la gendarmerie que le matin du 16 octobre, ce qui s'est avéré faux, apparemment c'était le 17, il était en train de fumer une cigarette. Ce qui, à la base, est de toute façon une situation complètement anodine, en fait, qui, dans le contexte du 16 octobre, bon, ils ont été en garde à vue, tout ça, donc ils sont stressés et ils vont fumer le matin une clope, même quasi, enfin, tout à fait normal et compréhensible. Et bizarrement, Bernard, il va en faire des caisses, quoi, inciter Marie-Ange, si ce qu'il disait vrai, à en parler aux gendarmes. Et là, sur PV aussi, ben, il met le paquet sur Jackie, quoi.
Et il est aussi présent lorsque Jackie demande à sa grand-mère qui est son père. Donc lui, il sait depuis pas mal de temps, hein, du coup. Hein. Continue. Au sein de la famille Bol, tout le monde était au courant de la situation entre les membres de la famille Villemain. J'ai appris la naissance de Grégory par un membre de la famille Villemain. Mais de toute façon, j'étais parfaitement au courant que Marie-Christine devait accoucher puisqu'elle était enceinte tout comme mon épouse. Et la naissance attendue des deux était approximativement programmées pour la même période. Ceci dit, elles ont accouché à une dizaine de jours d'intervalle, mais pas dans le même hôpital. Le plus souvent que j'avais l'occasion de rencontrer Jean-Marie et par la même occasion de voir Grégory était chez son père. Lorsque je rendais visite à Michel, lequel est voisin immédiat de ses parents. En effet, chaque dimanche, les enfants Villemain sont invités à manger chez les parents. À ces réunions de famille, était évité systématiquement Jackie et bien souvent Michel.
Ouais, ça c'est hyper important, c'est un motif récurrent, salir les assiettes le dimanche. On en avait déjà parlé, hein, mais systématiquement Jackie et bien souvent Michel.
C'est vrai que ça c'est des phrases directes du corbeau. Hein,
oui, c'est. On se demande même pourquoi il parle comme ça.
Il parle de ça, ouais.
En tout cas, ouais. Le fils de Michel, Daniel et Sébastien sont nés tous en 1980.
Ah oui, oui. Ah oui,
c'est
oui.
La même période. Mmh. Ouais.
Ils se suivent. Hein.
Ouais. Alors, je sais que Michel était un peu ennuyé, voire vexé de ne pas être, tout comme ses frères et sœurs, invité le dimanche avec sa famille. Il a dû m'en parler, mais sans pour autant me souvenir des propos tenus. Michel était mon ami. J'étais moi-même un peu frustrée de voir cet état des choses. Il faut dire que c'est le principal intéressé des Villemain que je fréquente. Je n'ai jamais eu de problème avec Jackie, bien que je ne le fréquente pas. Je connais les familles Jacquel et Ollard que de vue. La famille Jacquel a été mise en cause par l'intermédiaire de l'épouse de Jackie, qui est une fille Jacquel, laquelle était soupçonnée de participer à l'envoi des lettres anonymes. Comme déjà dit ci-dessus, j'étais parfaitement au courant du déroulement de la situation. Pour ce qui est de la famille Ollard, je sais juste qu'il s'agit d'une parenté avec Villemain Albert. Je suis propriétaire d'un véhicule Peugeot 305 de couleur verte, immatriculé 1388QX88. Je précise, pour ce qui est de la couleur de ma voiture, elle est de couleur grise fumée et non verte. En peinture métallisée.
Ça, c'est assez intéressant, parce que dans la même phrase, il va dire « Je suis propriétaire d'un véhicule de couleur verte. »
Ouais, c'est ça.
« Je précise pour la couleur que ma voiture est de couleur gris fumé. »
Et non verte.
Et non verte. Ça, c'est assez bizarre, quand même.
Disons qu'il est fier de sa voiture, et il faut qu'on lui donne sa vraie couleur, hein, sinon...
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que assez rapidement, on va dire qu'on cherche une voiture verte. Alors, au début, c'est une 4L verte, et ça cible directement Jacquel. Mais par contre, voilà, voiture verte, ça revient souvent. Donc je pense que là, même déjà à ce moment-là, Bernard est au courant qu'on recherche quand même un suspect qui avait une voiture verte. Et donc il essaye de dire qu'elle n'est pas verte, quoi, qu'elle est plutôt grise. S'il a à voir avec tout ça, évidemment.
Honnêtement, on ne sait pas si elle est grise ou si elle est verte, hein, c'est impossible à savoir.
Il dit peut-être ça aussi par rapport à Madame Clodon, étant donné qu'il l'a certainement croisée. Il a peur que peut-être si elle donne un signalement de la voiture, qu'elle dise une voiture verte, et puis lui, il se protège en disant que la sienne est bien grise.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans plusieurs PV, il demande à Marie-Ange, à Albert, enfin, il demande à plusieurs personnes la couleur, et ils vont tous dire que c'est une voiture verte, quoi. Vert olive, vert kaki, quoi. Donc, c'est particulier. Et là, en plus, dans la même phrase, en fait, il y a une contradiction, donc.
Ça, c'est.
Alors ensuite, puisque la suite est intéressante, là aussi, il y a un petit passage qui est intéressant. Donc, il dit je suis abonné au téléphone depuis janvier 1981, sous le numéro 57 47 45. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je pense que le numéro, il est plus valable. Mais vous pouvez toujours essayer. Mais ce qui est intéressant, c'est bon, il est abonné depuis janvier 81, et c'est quand même à peu près à cette date que les appels commencent, quoi. Hein.
Ils emménagent quand le couple Villemain à l'Épanche? C'est du côté de janvier, il me semble, si je dis pas de bêtises.
C'est en été, août, je crois.
D'accord.
Juillet, août.
D'accord.
Et les appels commencent un petit peu après septembre, je crois, un truc comme ça. Même pas un mois après qu'ils soient rentrés chez eux, quoi.
Ouais, plus ou moins, dès qu'ils ont le téléphone, en fait, les appels commencent.
Ouais.
Voilà, dès que Jean-Marie est installé et puis qu'il a le téléphone, les appels commencent.
Donc c'est assez particulier. Et donc la suite, Lovis, tu veux continuer?
Alors, concernant mon emploi du temps de la journée du mardi 16 octobre 1984, je me suis levée vers 13 h du fait que j'avais travaillé de nuit jusqu'à 15 h 30. J'ai rentré du bois qui avait été scié la veille par moi-même, aidée de Michel. J'ai été aidée pour rentrer le bois par ma tante Louisette. Vers 16 h, je suis allée rendre visite à Michel. À 16 h 30, j'étais de retour à proximité de mon domicile du fait que j'avais rendez-vous avec Zonka, Jean-Pierre, domicilié à Granges-sur-Vologne, lequel devait venir avec moi acheter du vin en réclame au magasin Pion à Laval-sur-Vologne. Comme il ne venait pas, je me suis rendue à son domicile, mais il était absent. Je suis à nouveau revenue au Monzay et j'ai attendu durant un quart d'heure, mais en vain. Vers 17 h 30, 17 h 40, je me suis rendue seule au magasin Champion pour acheter le vin en question. J'ai payé par chèque bancaire de la Société Générale, agence de Gérardmer, un montant de 1265 francs, avec la formule 8, 7, 7, 12, 13. J'ai aussi été touché le montant d'un tiercé gagné au café de la Renaissance à Bruyères. Sur le chemin du retour, vers 18 h 30, j'ai croisé Michel à l'Aveline devant Bruyères, lequel était au volant de la Datsun de son père. Durant l'après-midi du 16 octobre 1984, j'étais accompagnée de mon fils Sébastien, du fait que mon épouse travaillait d'équipe de l'après-midi. C'est moi qui rédige toutes les écritures et correspondances nécessaires à la vie de famille. Je suis amenée aussi à effectuer celle de ma tante Louisette, laquelle n'est pas en possession de toutes ses facultés mentales. Pour les besoins de votre enquête, je consens à ce que vous emportiez quelques écrits que j'ai moi-même rédigés, à savoir un cahier scolaire de couleur bleu France, un bloc de papier à lettres Diane, un agenda bleu, 3 pages de cahier de format 21 sur 29,7 et un stylo montre sans marque. Pour ma part, je n'ai jamais envoyé un quelconque écrit anonyme, pas plus que je n'ai téléphoné de la sorte. Je ne vois rien d'autre à déclarer, bien qu'il est certain que certaines choses doivent m'échapper, notamment en ce qui concerne certaines conversations avec toute cette famille que j'ai pu moi-même avoir, que j'ai été volontairement ou involontairement témoin. Alors, il y a le stylo montre encore.
Oui, c'est.
Ah, tu vois, hein, on en avait parlé de ça.
Ouais, le stylo montre qui revient à plusieurs reprises, hein, effectivement. Il regarde dans le catalogue des Trois Suisses, hein, si je me souviens bien. Et là, Bernard va dire qu'ils ont le même stylo montre au comité d'entreprise. Et là, il revient encore une fois. C'est vrai que c'est intriguant. Et par contre, il y a quelque chose qui est aussi intriguant, c'est qu'en fait, là, dans ce premier PV, il ne parle pas de Muriel. Alors qu'au début, quand il décrit sa journée, le matin, il se lève, la veille, il a fait le bois avec Michel, ensuite, Louisette l'a aidé et tout ça. Et alors, bizarrement, sur le passage, quand il revient au Monzay, parce que Zonka est soi-disant pas là,
Ouais, il parle pas de Muriel.
ni de Louisette, tout ça, alors qu'après, quand il va parler des écritures, que c'est lui qui s'occupe de la paperasse, tout ça, là, il va reparler de Louisette. Donc, il y a comme une omission, parce que ça, c'est le premier PV. On va voir qu'après, c'est un peu différent.
C'est autre chose, oui.
Ouais, c'était le 25 octobre 1984.
Donc, l'an 1984, toujours, le 31 octobre. Alors, donc, je me nomme La Roche-Bernard. Hein. J'ai déjà été entendu dans cette affaire à mon domicile le 22 octobre 1984. Et j'ai déjà fourni un emploi du temps assez détaillé. Question. L'emploi du temps que vous avez remis lors de votre précédente audition laisse apparaître un trou entre 17h30 et 17h40 le mardi 16 octobre. Expliquez-vous. Réponse. Après avoir terminé de rentrer mon bois, aidé par ma tante Louisette, je lui ai offert un verre de vin et j'ai trinqué avec elle. Je l'ai ensuite raccompagnée à son domicile, voisin de 200 mètres du mien. Je l'ai accompagnée chez elle. Peut-être m'a-t-elle offert un verre, mais je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas regardé ma montre à cet instant précis, mais je ne me suis pas attardé chez ma tante. Je me suis rendu aussitôt chez Michel, toujours au bord de ma voiture.
C'est intéressant de voir que ce jour-là, en fait, il s'attarde avec personne, mais il est censé faire tout ça. Il va quand même rester quelques minutes avec Louisette. Ensuite, il va chez Michel, il reste 10-15 minutes. Voilà. Alors après, on ne sait pas si c'était une habitude, hein, s'il avait tendance à faire ça, passer comme ça en flèche, ou si c'est aussi une façon de se faire voir, peut-être aussi. Hein.
Aussi, oui.
Alors, la suite.
Question. Pouvez-vous situer l'heure exacte à laquelle vous êtes arrivé chez Michel ? Réponse. Non, à ce moment-là, non plus. Je n'ai pas regardé ma montre, mais il pouvait être à peu près 15h40, 16h. Question. Que faisait Michel lorsque vous êtes arrivé à son domicile ? Réponse. Il se trouvait à l'intérieur de sa maison, car je me souviens qu'il m'a ouvert la porte. Je ne me souviens plus si j'ai frappé ou s'il m'a entendu arriver et qu'il soit venu dans ce cas de lui-même, ouvrir la porte. Il m'a fait entrer dans la cuisine et nous avons discuté de banalités. Nous avons feuilleté un catalogue ensemble. Question, votre fils n'était-il pas à l'école ce jour-là ? Réponse, non. Il m'accompagnait d'ailleurs, en effet, le mardi après-midi étant le jour de piscine à l'école, les enfants fréquentant la maternelle sont laissés à la charge des parents, n'étant pas admis au cours de natation. Mon fils a joué avec Daniel, le fils de Michel, pendant que nous discutions dans la chambre du petit. Question. Comment était vêtu votre fils ce jour-là ? Mon fils portait un anorak de couleur bleue en nylon et sa cagoule blanche, je pense. Je m'arrête là parce que le « je pense », ça m'a intrigué.
Ouais, et puis surtout couleur bleue, quoi, parce que on voit souvent Sébastien avec sa veste. Alors effectivement, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Mais c'est quand même le rouge qui ressort le plus, quoi.
Ouais, mais là, il dit « je pense », il n'est pas sûr, quoi. C'est son gamin, il ne sait pas comment il s'est habillé.
Ouais, bon après, c'est quelques jours après, hein, c'est 9 jours après.
Ah ben, tu sais très bien que les enfants, hein, ils n'ont pas 50 manteaux, 50 cagoules. Hein.
Ouais. Je sais pas. Moi, c'est la couleur bleue, parce que ça me fait penser à une voiture verte, une voiture grise. on sait que Grégory avait un anorak bleu. On sait aussi que la patronne là, du PMU, elle va se souvenir, bon, après être un peu remuée par Bernard pendant la confrontation, elle va se souvenir qu'il était accompagné d'un enfant qui avait un anorak bleu.
Mmh.
Pourtant, toutes les personnes à qui on montre la veste de Sébastien nous disent quand même que la couleur prévalente, c'est le rouge.
Bah, moi, c'est bleu, blanc, rouge, hein, si tu me dis.
Ouais.
Son anorak, c'est bleu, blanc, rouge. Ensuite, Michel m'a montré un catalogue des Trois Suisses, ou plus exactement, c'est moi qui l'ai pris sur son buffet. Et nous l'avons regardé ensemble. J'avais rendez-vous ce jour-là à 16h30 avec Zonka, un camarade de travail, notre maître dans la contre-équipe. Nous devions nous retrouver chez ma tante à 11h, car nous avions projeté d'acheter du vin au supermarché. supermarché Champion à Laval-sur-Vologne, afin de profiter d'une promotion sur le vin. Je ne puis dire si j'ai consulté ma montre, étant chez Michel, sans doute l'ai-je fait, mais je ne puis dire à quelle heure exacte. J'ai quitté ce dernier tout au moins à 10 minutes près. Je précise qu'il me faut environ 2 minutes pour rejoindre mon domicile depuis chez Michel. Je puis affirmer qu'à 16h30, j'avais quitté le domicile de Michel et que je me trouvais chez ma tante Louisette. J'y ai attendu Zonka jusqu'à 17h15 environ. J'ai regardé l'Argus automobile pendant que mon fils jouait. À 17h15, ne voyant pas venir Zonka, je me suis rendu en compagnie de mon fils au domicile de celui-ci, qui est de Vologne à Granges-sur-Vologne. Il me faut 5 minutes pour effectuer ce trajet. La maison de M. Zonka étant entourée d'un mur d'enceinte, j'ai pénétré avec mon véhicule dans la cour. J'ai immédiatement remarqué que sa propre voiture, une Renault 5 de couleur blanche, était absente de son lieu de stationnement habituel. Je suis allé frapper à sa porte et comme je n'avais pas obtenu de réponse, je suis remonté dans mon véhicule où j'avais laissé mon fils. Je précise que la porte de l'habitation était fermée à clé, mais que cette dernière se trouvait à l'extérieur sur la serrure. Je ne me suis pas attardé chez Zonka. Un détail me revient à l'esprit. En sortant de la cour avec ma voiture, je me suis un peu trop avancé de façon à voir si la voie était libre. C'est alors qu'a surgi une petite voiture bleue qui pouvait être une Golf ou une Polo Volkswagen. Ce véhicule était lui-même en train d'effectuer un dépassement. Mais je ne pourrais dire quel était le véhicule dépassé. Ces deux voitures venaient de la direction de Bruyères, par le quai de Vologne, en raison de la déviation mise en place à cause des travaux au centre de la localité. Donc j'ai freiné énergiquement. Mais je ne puis dire si le conducteur de la voiture bleue ou de l'autre véhicule m'a vu. Je suis retourné en Monzé chez ma tante, pensant que Zonka avait pu venir pendant ce temps. Sur interrogation, mon véhicule est bien équipé d'une radio, mais j'aurais peur de mentir en affirmant qu'elle fonctionnait ou non. Je suis donc revenu au domicile de ma tante Louisette. Il devait être 17h30 à mon arrivée. Était présente ma belle-sœur Muriel Boll, âgée de 15 ans environ. La télévision fonctionnait, mais je n'ai pas fait très attention au programme. Il me semble que c'était des clips vidéo qui passaient sur Radio-Télé Luxembourg. Je suis resté chez ma tante 10 minutes, un quart d'heure. Donc 10 minutes, un quart d'heure, ça fait 40 ou 45. J'ai décidé de me rendre au magasin Champion, toujours avec mon fils, avant de partir. J'ai averti ma belle-sœur de mon départ. Et lui a recommandé que si Zonka se présentait, elle lui dise que j'étais parti chercher le vin. J'ai peut-être mis, en raison des travaux à Lavigne, 15 minutes pour me rendre au magasin Champion à Laval. Donc ça nous fait 18 heures là-bas.
Ouais, j'ai juste une question. Ça vous paraît cohérent, du coup, qu'il fasse Zonka en un quart d'heure et qu'il soit de retour quand Muriel est à la maison?
Ouais, c'est pas impossible, ouais. Ouais, parce que au Monzé Grange, c'est vraiment à côté, quoi. C'est à 5 minutes.
À 5 minutes, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le lit, ouais.
Toi, ça te paraît un peu court, toi, non?
Ouais, je me disais, s'il part à... Parce que là, il part à 15 de chez Louisette. Vous voyez, pas venir dans le cas, je me suis rendu à 15, à 17h15. Autant qu'il arrive à chez Zonka. On va mettre 5 minutes, donc 20, pardon, j'ai rajouté. Le temps qu'il fasse le tour de la maison, tac, il se fait arrêter par une voiture qui double une autre, qui freine énergétiquement. Je sais pas, je me dis, allez, ça met encore... ça fait juste, hein, le temps qu'il arrive, Muriel est déjà en train de regarder la télé, quoi. Donc pour moi, soit ils arrivent en même temps, quoi. Vu que Muriel... dans sa déposition, son bus, il arrive à 20h25.
Ouais, c'est dans un mouchoir de poche. Après, c'est vrai qu'un quart d'heure, ça peut le faire. 10 minutes pour l'aller-retour et 5 minutes chez Zonka.
D'accord, à 17h30, il arrive. Mais déjà, Muriel est déjà en train de regarder la télé.
Elle descend à peine du bus. Ouais.
Elle descend à peine du bus, là.
À quel moment elle fait ses devoirs, Muriel?
Elle est fait quand elle dit quand Bernard est reparti à champion. Mais après, Muriel, ça sera un autre PV, mais
ouais.
Pour l'instant, c'est l'heure d'arrivée de Bernard à 17h30, à mon arrivée. Était présente ma belle-sœur Muriel Boll. La télévision fonctionnait, mais je n'ai pas fait très attention au programme. Il me semble que c'était des clips vidéo. Donc à 30, elle est déjà assise en train d'écouter les clips vidéo. C'est Justin quand même, non?
Ouais. Bon, après, des fois qu'ils soient restés 7 minutes chez Zonka, c'est 32, bah, ça peut le faire. Hein.
Ça peut le faire, mais lui, il est affirmatif sur ses horaires. Donc 30, 15, tu vois, c'est. Il dit pas des à peu près. Moi, ces horaires-là, elles m'ont toujours intrigué. Hein.
De toute façon, enfin, on a des gros doutes hein, sur cette séquence. Mais bon, disons que Bernard connaît bien les trajets et tout ça, donc il peut estimer, même si, admettons, il n'était pas chez la tante Louisette, les estimations qu'il va donner, je pense qu'elles sont assez justes, quoi.
Ouais, son narratif est plutôt cohérent, hein, jusqu'à qu'il y ait une confrontation avec Muriel, mais sinon, ça a l'air cohérent, hein, c'est pas...
Donc j'ai peut-être mis en raison des travaux à la vie 15 minutes pour me rendre au magasin Champion Laval. Lorsque je suis arrivé, il pouvait être 18h, bien que je n'ai pas regardé ma montre. Ce dont je me souviens, c'est qu'il n'y avait plus guère de clients. Il ne restait plus que deux caissières, là où étaient enfermés les lots de vin. Je me suis renseigné et on m'a conseillé de prendre deux caddies, c'est ce que j'ai fait. Après avoir chargé mes deux caddies, je me suis rendu aux caisses, poussant un caddie et tirant l'autre. Je me suis alors aperçu que j'avais laissé mon carnet de chèques dans ma voiture. J'ai laissé mon fils à côté des chariots, suis allé chercher ma sacoche dans la voiture et je suis revenu établir mon chèque. Je n'ai aucun souvenir de la caissière. Je ne puis dire si elle était blonde ou brune, si elle portait des lunettes ou non. Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle portait une blouse de couleur orange. Donc là, je m'arrête. moi, ce que je trouve bizarre, c'est d'avoir laissé Sébastien à côté des caddies, sachant qu'il avait déjà un déséquilibre pour marcher. On le voit dans le reportage quand il sort de prison et que Marie-Ange le rejoint avec son gamin. Chancelant, tu vois, elle lui tient la main, elle le lâche vraiment dès qu'il est près de son père. Mais donc c'est étonnant d'avoir laissé Sébastien tout seul devant les caddies, sachant qu'il avait ce problème d'équilibre, tu vois.
Exact. Et puis en plus, il était quand même un peu agité, quoi. Quand on regarde les vidéos, on voit que c'est un gamin, quoi. Donc il bouge, tout ça. C'est vrai que c'est étonnant. Et en plus, les caissières ne vont pas se souvenir de cette scène, quoi.
Cette scène, pour moi, j'arrive pas à y croire à cette scène d'avoir laissé Sébastien tout seul devant les caddies.
Ouais, parce que j'avoue que j'imagine très mal Sébastien tenir sagement accroché au caddie sans. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que dans cette scène, avec Marie-Ange, elle ne le lâche pas, hein, jusqu'à ce qu'il soit près de son père. Ouais.
Bah, on le voit marcher, tu vois, on le voit un peu tituber. C'est voilà, ce pauvre petit, comme on dirait. Hein. Mais voilà, donc pour moi, là, Sébastien n'est pas là.
En tout cas, c'est étrange de l'avoir laissé.
C'est étrange.
Je trouve aussi, beaucoup.
C'est sûr, on va nous dire oui en tenant le caddie, en lui disant ouais, tu bouges pas et papa il revient, tu vois, un truc comme ça. Mais...
On pourrait se dire aussi que le réflexe de Bernard Laroche aurait été de solliciter la bienveillance d'une caissière pour surveiller Sébastien.
Exactement, et là, la caissière se souviendrait de cet épisode.
Là, elle se serait souvenue.
Exactement, elle aurait dit oui, je me souviens. Voilà, mais là...
Enfin, on est dans des hypothèses. Hein.
La caissière, elle ne peut pas vraiment lâcher sa caisse si tout d'un coup, hein. Sébastien se met à marcher.
Bah, il dit bien, Bernard Laroche dit bien qu'il n'y avait pas de clients, voire plus de clients.
Et deux caissières. Hein.
Et deux caissières, elle dit ça, hein. Elle dit bien ça, on est d'accord.
Ouais, plus guère de clients. Ouais.
Donc, ça peut laisser sous-entendre qu'elles avaient le temps et... Le temps de peut-être surveiller un gamin de 4 ans alors que son père part chercher sa sacoche. Hein. On peut le supposer. Hein. Voilà, c'est pas interdit de le penser.
Et même le temps de se souvenir de la situation puisqu'il n'y avait pas de client.
Exactement.
Exactement, Daniel, exactement.
Et puis après, il va dire, bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle portait une blouse de couleur orange. Bon, ça doit être l'habit qu'elle doit tout le temps porter.
Bah oui,
Donc
c'est pas
c'est presque un
difficile.
peu inutile, quoi.
Ah ouais.
Alors après, il dit quoi?
Alors, surinterrogation. C'est moi-même qui ai établi le chèque. Elle ne m'a pas demandé de pièce d'identité malgré l'importance de l'achat. Ouais, est-ce que c'est possible ça par contre à ce moment-là? Qu'on ne demande pas de pièce d'identité pour une forte somme?
Je crois bien que oui, hein.
Parce que là, c'est 1260 et quelques francs, là. C'est une grosse somme à l'époque. Donc,
J'ai une idée de combien ça fait en euros à peu près.
200, 200,
D'accord.
150, 200 euros.
Bah déjà, moi, pour 15 euros, je demande une pièce d'identité au magasin.
Ouais.
Mais obligé de demander une pièce d'identité quand c'est payé par chèque.
Mais je crois que là aussi, la caissière, elle va confirmer que c'était pas la norme, quoi.
Au passage, une petite question, il existe bien ce chèque?
Le chèque existe, ouais. Ouais, il a été retrouvé. Donc oui, l'achat a été effectué. Après, c'est intéressant. Bon, ça c'est Bernard lui-même qui va le dire, du coup. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un d'autre avec son chéquier aurait pu aussi faire.
Exactement, et c'est là ce qui me permet de rebondir, mais c'est juste, je ne sais pas si ça va être pertinent, mais à un moment il dit c'est moi-même qui ai rédigé le chéquier.
Ouais.
La tournure de la phrase, tu la trouves un petit peu, c'est moi-même qui l'ai. On
Oui.
sent
Aline,
une petite. Ouais.
je te coupe.
Ouais, je t'écoute.
C'est surinterrogation, c'est-à-dire le gendarme lui a demandé si c'était lui qui avait fait le chèque.
Ouais, d'accord. Bon, ok. Donc il y avait un espèce de soupçon chez les gendarmes aussi. Marrant.
Voilà. Surinterrogation, quand je dis surinterrogation, ça veut dire sur la question des gendarmes. Lui répond, c'est moi-même qui ai établi le chèque. Donc ils lui ont posé la question.
Bah, en fait, c'est plus sur le choix des mots. En fait, j'ai rempli ce chéquier, c'est moi-même qui l'ai. Enfin bon, je me comprends. Hein, c'est pas. C'est juste une idée comme ça en passant. Il n'y a rien de.
C'est intéressant parce qu'il dit, elle ne m'a même pas demandé de pièce d'identité malgré l'importance de l'achat.
C'est ça.
Donc c'est bizarre qu'il ne se souvienne pas de la personne alors que visiblement. Ça l'a marqué, quoi. Enfin, je me dis, typiquement, je suis à la caisse et je me dis, tiens, celle-là, elle ne me demande pas la carte d'identité. J'aurais tendance à me souvenir de quelle caissière c'est. Surtout que ils vont faire leur course à Champion, c'est récurrent, quoi. Donc, ils doivent quand même connaître un peu les caissières.
Surtout pour des gros achats comme ça, ouais, exactement.
Non, Daniel, parce que Michel disait que, ou je sais plus c'est quel PV qu'on avait lu. Ou Marie-Ange, c'était rare qu'il faisait ses courses à Champion. Il allait plutôt Leclerc.
C'est pour Bernard, t'es sûr?
Ouais, c'était pour Bernard.
Ok, parce que la caissière du magasin a dit que elle se souvient pas que le 16 elle a vu Sébastien, mais elle connaissait l'enfant.
Elle avait déjà vu, ouais.
Ouais, donc ça veut dire quand même qu'il y allait, quoi.
Les habitudes de Marie-Ange, peut-être, champion.
Peut-être.
Peut-être, hein. Alors, ensuite, il dit quoi?
Alors, il est environ 18h10 lorsque je quitte le supermarché et je me rends aussitôt au café La Renaissance, à Bruyères, dans le but de percevoir le tiercé. Le débit de boisson était fermé et je suis passé par une autre porte donnant accès à l'hôtel. J'ai été reçu par la patronne, une dame âgée qui porte des lunettes. Dans une arrière-salle, des gens discutaient. Mais je ne peux dire de qui il s'agissait. Ce que je peux dire, c'est que la patronne portait un plateau sur lequel étaient posées des bières. Parmi ses clients, il me semble avoir remarqué un commerçant de Bruyères qui portait de grosses moustaches. Mort de rire le détail. Je le connais de vue, mais je suis incapable de donner son nom sur le moment. La dame m'a fait entrer dans la salle du café par une porte qui communique directement sur le hall d'entrée de l'hôtel. Elle m'a précisé que le débit de boisson était fermé. Je lui ai précisé que je venais toucher mon tiercé. Elle m'a alors demandé où j'habitais. Je lui ai répondu que j'étais dans mon zé. Bizarre qu'elle lui demande où est-ce qu'il habitait. Est-ce que c'est obligé de demander où est-ce que tu habites pour encaisser ton tiercé.
Non, mais je pense qu'elle lui demande pour savoir est-ce que c'est un mec qui vient de loin ou tu vois. Bon, si vous venez d'Omonzé, je vais vous éviter l'aller-retour, on va le faire maintenant.
Ouais. Oui, ça, après, il le dit, la suite, lui. Mais est-ce que c'est vrai qu'elle lui ait demandé où est-ce qu'il habitait? C'est ça, lui, il va dire ça, mais peut-être pour arranger la chose.
Oui, parce qu'en fait, il n'est pas forcément logique qu'il aille dans cet endroit, vu qu'il n'y va jamais. C'est ça.
Voilà.
Et en plus, est-ce que c'est un détour par rapport à son chemin? Il me semble, non?
Un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est quand même étonnant, quoi. Après, ce que je me dis, c'est que bon, est-ce qu'il irait inventer autant de détails en se disant que la personne va pas s'en souvenir ou il y a quand même des détails qui paraissent logiques, quoi. Enfin.
Justement, il y a trop de détails, quoi.
Ouais.
Je lui ai répondu que j'étais d'Omonzé. Elle m'a alors dit, je vais vous payer afin de vous éviter une nouvelle venue. Elle m'a alors donné 163 francs correspondant au tiercé du dimanche 14 octobre que j'avais dans le désordre. Sur interrogation, je suis entré dans cet établissement avec mon fils. Sur le trajet de retour vers 18h30, j'ai croisé la voiture d'Albert Villemain, conduite par Michel. Je lui ai fait un signe de la main et j'ai remarqué qu'il transportait des passagers que je n'ai pas reconnus. C'était juste à l'entrée des travaux de l'aveline devant Bruyères. J'ai seulement reconnu la Datsun.
Alors là, c'est étonnant,
Oui.
parce que il reconnaît la voiture d'Albert, il reconnaît que le chauffeur, c'est Michel, il lui fait un signe de la main alors qu'il fait nuit, parce que là, c'est 18h30, hein, et il dit, j'ai seulement reconnu la Datsun.
C'est ça.
Donc là, soit il y a eu concertation après avec Michel, soit il y a quelque chose qui colle pas, quoi.
Surtout, en combien de temps ça s'est fait, le laps de temps? Ça a duré combien de temps le croisement? On ne sait pas. Hein. Peut-être furtivement, hein, peut-être. On a une idée sur. Non?
Ah, c'est quelques secondes, hein, parce que lui, il va tourner. Il va rentrer dans une autre rue, rue de la Mairie, je crois. Et donc, ça va très vite, hein, en fait. Je crois qu'à un moment, ils vont même parler d'un appel de phare. Ça change, en fait. À un moment, tu as un signe de la main, et puis après, ça devient un appel de phare. Tu as Michel qui dit qu'il faisait déjà nuit, que les lampadaires étaient allumés. Étonnant. Et c'était pas habituel que Michel prenne la Datsun, quoi. D'habitude, il avait sa Honda. Et ce qui est étonnant, c'est que ce jour-là, sa femme Ginette va donc partir au travail avec la voiture, ce qui est inhabituel, quoi. Ce qu'elle fait pas d'habitude.
Il était blessé, Albert. Il pouvait pas conduire, il me semble.
T'es blessé à la jambe. Moi, j'aurais mis dans l'ordre, j'ai seulement reconnu la Datsun, tu vois, au croisement.
Alors là, c'est étonnant aussi parce qu'il mentionne pas qu'il a tourné. Enfin, où il a tourné tout ça, il dit juste qu'il les a croisés, sans plus de précision, à l'entrée des travaux de l'avenue devant Bruyères.
J'ai ensuite déposé mon fils chez ma tante Louisette et remonté chez moi pour décharger mon vin. Ce travail accompli, je suis allé déjeuner, je veux dire dîner, chez ma tante. Vers 20h, je suis allé mettre mon fils au lit. Je suis resté chez moi jusqu'à mon départ au travail, soit jusque 20h45 environ. Avant de me rendre au tissage, je suis toutefois passé chez ma tante pour remonter son réveil. Je n'ai appris le drame que le lendemain, mercredi, à 10h du matin, par mon épouse qui est venue me réveiller avec le journal en main. Le 31 octobre 84 à 22h à Épinal, ça c'est la date du PV.
Alors là, dans ce PV, il précise pas avec quelle voiture il est parti chercher le vin.
Ça doit être forcément la 3-5, puisque c'est là qu'il y a un espèce de système de sécurité de porte pour Sébastien, non?
Bah là, c'est tout avec la 305. De toute façon, c'est.
Oui, d'accord. Non, c'est pour être sûr hein, que voilà, on sait que c'est la 3-5.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que bon, il est censé partager ce vin avec Zonka, et Zonka travaille dans la même usine que lui. Donc c'est bizarre qu'il aille, disons, chercher le vin avec la 305, pas avec la Mi8, et que là, il décharge pas non plus le vin dans la Mi8, finalement. Il va le décharger chez lui, si j'ai bien compris.
Et une petite question concernant Zonka dans l'usine de Bernard, ils sont en contre-équipe, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, ouais.
Donc lui aussi est contremaître Zonka.
Tout à fait. Et Zonka est contremaître depuis plus longtemps.
D'accord, donc les horaires, c'est quoi? C'est 21, 5 h du matin pour Bernard et 13-21 pour Zonka.
Je suppose, ouais. Peut-être même que c'est 5 heures, 13 heures, hein, pour Zonka. Ça, je sais pas, par contre. Enfin, de mémoire, je peux pas te le dire.
Ouais, parce que je me disais dans ma tête, peut-être qu'ils auraient, ils auraient pu à la limite lui ramener le vin. Enfin, je sais pas, l'usine.
Oui, non, mais c'est ça, moi, c'est ce que je pense. Je pense que le lendemain matin, il aurait pu lui ramener le vin. En plus, il dit bien que la clé de la porte était toujours sur la porte de Zonka. Donc, il aurait pu même le décharger tout seul, quoi. Il n'a même pas besoin que Zonka soit là. Alors
Bien
qu'ils
sûr.
vont se donner rendez-vous beaucoup plus tard pour l'échange, tout ça. C'est étonnant. Et d'ailleurs, là, il ne parle pas non plus du. Qu'il a envoyé la tante Louisette chercher à manger.
Non, il n'en parle pas. Donc là, c'est intéressant de dire que de 15h15 à 16h40, La Roche-Bernard nous assiste lors de la perquisition effectuée à son domicile au lieu-dit La Fosse à Montmorency. Cette perquisition fait l'objet d'un procès-verbal séparé. Ensuite, de 16h40 à 18h, l'intéressé bénéficie d'un temps de repos, parti dans le véhicule de dotation de main de la SR Nancy durant son transport de Homonzé à Épinal, parti au bureau de la brigade d'Épinal. De 22h à 24h, le 31 octobre, La Roche-Bernard subit les tests de graphologie sous la dictée de Sesma, du capitaine Sesma. Donc, il a fait la lettre de le 31 octobre. Tu vois, donc ils l'ont interrogé avant même d'avoir les résultats de la graphologie. Donc ça, c'est important de le
Ouais,
savoir, c'est
et
bien.
en plus, du coup, on apprend que Sesma fait une dictée. Donc, on lui montre pas des bouts de texte alors. C'est vraiment une vraie dictée.
On a subi les tests de graphologie sous la dictée du capitaine Sesma.
Voilà, donc sous la dictée, ça veut dire que c'est lui qui dirige le truc, quoi.
Donc, à minuit, hein, Bernard qui nous déclare, un détail est revenu. Je connais à Grange, sur Vologne, une personne qui possède une voiture identique à celle qui a failli me heurter lorsque je sortais de chez Zonka. Tout au moins, j'ai vu une voiture semblable stationnée chez lui. Il s'agit de Monsieur Fockmann, qui demeure route de Bruyères à Grange, tout de suite après la barrière du passage à niveau entre Monzé et Grange. Peut-être être cette voiture qui est passée ce jour-là. Est-ce qu'on connaît ce Fockmann, Daniel? Non.
Alors, récemment, là, j'ai vu une image d'archive où on voit Bernard pointer à la pointeuse de son travail. Et donc, on voit les cartes. Et on voit que juste au-dessus, il y a Madame Feuchmann, Josette Feuchmann,
D'accord.
qui donc travaille visiblement dans la même équipe que Bernard. Je crois que le nom, il revient deux, trois fois dans le dossier, mais il n'y a pas de connexion avec Bernard que je sache, à part cette collègue de travail.
Il y a aussi un Folkman hein, dans la pétition pour Bernard Laroche.
Mais je pense que c'est la Josette, à moins que son mari travaille aussi.
Alors, sur interrogation, j'ai fait installer le téléphone peu de temps après que je sois entré dans ma maison, soit en janvier 81, lorsqu'il m'a été installé. Il y avait à peine 15 jours que j'étais installé. Je logeais auparavant dans un logement de l'usine route de Bruyères à Grange.
Ça, c'est intéressant.
En tout cas, moi, je ne savais pas du coup.
Ben, il habitait à côté, route de Bruyères à Grange, à côté de chez Monsieur Fockmann. L'adresse, elle est juste au-dessus, tu vois. C'est Monsieur Fockmann qui demeure route de Bruyères à Grange. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui connaît très bien, en fait.
Oui, ça doit être un ami ou quelque chose comme ça.
Question. Vous est-il arrivé de recevoir vous-même des appels téléphoniques anonymes? Oui, j'en ai reçu. Il s'agissait de farces que me faisaient des filles. Mon chéri, j'ai envie de toi. Ces appels avaient pour but de semer la discorde dans mon ménage. Question. Vous est-il arrivé de donner vous-même des coups de fil anonymes? Réponse. Non, j'aurais pu en donner en contrepartie si j'avais connu mes interlocutrices. Sur interrogation. C'est vrai, j'ai été élevé par ma grand-mère Jacob, Adeline, avec Villemain Jacqui, et ce durant 5 à 6 ans. Il est vrai également que je me suis davantage lié avec Vilma Michel qu'avec Jackie par la suite. J'attribue ce fait au mariage de Jackie, car je n'apprécie pas son épouse. Je la trouve quelque peu vantarde et menteuse.
Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Bernard n'aime pas trop Liliane.
Ben, il n'aimait pas du tout.
Tu penses à l'appel du corbeau qu'il fait à Liliane?
Pour l'instant, je pense à rien, mais c'est une donnée, quoi.
Qui pourrait la faire accuser ouais, de tous les maux, quoi.
Il va déjà les faire accuser par sa femme, là, qui se rend à la gendarmerie.
Mmh.
Et puis, tout à l'heure, il appuyait déjà sur Jackie. Puis maintenant, il va appuyer aussi sur Liliane, quelque peu vantarde et menteuse. Alors qu'il voulait absolument faire une belote avec eux, quoi.
Exactement. Question, vous souvenez-vous du mariage de Jacqueline Villemain où vous étiez invité? Réponse, oui, je m'en souviens, j'étais déjà marié à cette époque. Jean-Marie et Christine étaient seulement fiancés. Question, est-ce que oui ou non, vous étiez assis au banquier de ce mariage à côté de Christine et avez-vous tenté de lui faire du pied sous la table? Réponse, c'est faux ou alors je devais tenir une sacrée cuite.
Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il dit c'est faux ou alors je devais tenir une sacrée cuite. Donc on peut en déduire que quand il tient une sacrée cuite, il fait des choses dont il ne se souvient pas ou il se maîtrise pas, quoi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est un aveu pour moi. Ça veut dire.
Oui, que c'est pas impossible. Voilà, que je l'ai fait.
Il dit pas cuite, hein, il dit sacrée cuite.
Sacrée cuite, ouais.
Il y a des gens qui vont juste. Bah aller se coucher quand ils ont une sacrée cuite. Puis c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont faire du pied, quoi.
C'est ça.
Ah ouais, non, ouais. Mais c'est souvent comme ça. J'ai connu des gens du temps où les gens qui étaient dans mon entourage très introvertis, ben, du coup, quand ils prenaient une bonne cuite, ils étaient complètement transformés.
Oui.
Ouais.
Je dis ça pas. Hein. C'est marrant, hein. C'est quelque chose que j'ai remarqué, mais je ne sais pas pour vous, mais.
Ah oui, si. J'en ai fréquenté des gens comme ça.
Alors complètement, vous savez, introverti, très poli, très carré dans la vie, mais une fois, ça, je trouve ça très... bref, petite anecdote sur...
À l'alcool.
Ouais, comme on dit en latin, hein, vinos veritas. Et c'est vrai, ça. Hein, ça c'est,
Il est également faux que j'ai fait des propositions à Ginette, la femme de Michel Villemain. Par contre, il est vrai que j'ai eu une liaison avant mon mariage avec Marie-Rose Cunin, épouse de Yvan, Madame Ducarte. Je précise que je n'ai pas été le seul.
Ah, c'est énorme. Ouais, c'est trop.
Donc, Yvette...
Marie-Rose.
Non, comment il dit? Marie-Rose Cunin, épouse de Yvan Cunin. Yvan Cunin, c'est qui?
Je
ne me souviens plus.
Je vérifie, ouais.
Est-ce que c'est pas un neveu du côté de chez Jacqueline Turiot, enfin Jacob?
Non, je pense que c'est plutôt du côté
de Jacob, hein, de.
Il y a deux frères Cunin, du coup. Attends, je vérifie.
Ça me dit rien du tout. Nous, on sait que c'est vrai qu'il a fait des propositions à Ginette parce que Ginette le dit sur PV et en plus, elle va en parler de suite à Jacqueline et Jacqueline confirme ce que lui a dit Ginette. Comme quoi, Bernard serait venu lui dire je t'aime. Tout ça. Donc là, visiblement, enfin, c'est intéressant. Soit Ginette a menti aussi à Jacqueline, soit Bernard, là, il essaye de cacher quelque chose, quoi.
Oui, là, c'est lui qui ment, je pense.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va le questionner. Est-ce que vous avez fait des propositions à Ginette? Il va dire que c'est faux, et il va raconter de lui-même qu'il a eu une relation avec une Marie-Rose Cunin. C'est étonnant, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il lâche ça?
Ouais. Et je précise que je n'étais pas le seul.
C'est bizarre, ouais. Ça, c'est bizarre.
Qu'est-ce qu'il va insinuer?
Yvan Cunin, c'est donc le fils de Suzanne Jacob et André Cunin.
Voilà, c'est là où Monique et Albert avaient été joués à la belote.
Mm-hmm.
Carte.
Les parents de Bernard ont vécu justement avec André Cunin et son frère en 1936, quoi, donc dans Monzay.
D'accord, donc ils se connaissent très très bien, quoi, les Cunin.
C'est ça, parce qu'ils étaient genre voisins.
Donc cette Marie-Rose Cunin aurait grandi un peu avec Bernard, quoi.
Bah, en tout cas, avec Marcel. Enfin, je veux dire, André Cunin et Marcel Laroche étaient voisins, du coup.
Ça veut dire que parce qu'on sait qu'il a fait du pied à Christine, apparemment, en tout cas c'est ce qui se dit, il y a une tentative avec Ginette et aussi avec donc la femme d'un proche.
Quoique elle s'appelle Tuna parce qu'elle a épousé Yvan, mais elle, c'est une Ducarme. Ducarme ou Ducarte, parce que c'est mal
Je
Ducarme.
précise que je n'ai pas été le seul. Quelle élégance, hein.
On ne sait pas qui veut balancer, mais.
Ouais, ce qui veut dire, c'est que.
Il faudrait voir s'ils étaient déjà mariés, en fait. Parce qu'il dit, j'ai une liaison avant mon mariage, donc c'est avant Marie-Ange, donc avant 76 ou 78, je ne sais plus, avec Marie-Rose Cunin. Donc il faudrait savoir quand est-ce que cette Marie-Rose Cunin s'est mariée avec Yvan.
En 1966.
Voilà, donc en plus, il a eu une liaison alors qu'elle était mariée avec lui.
Ouais, donc la spécialité de Bernard Laroche, c'est les femmes mariées. Donc j'occupe le poste de contremaître depuis septembre 84. Et c'est par mon travail personnel que j'ai pu accéder à ce poste. Je n'ai jamais envié ou jalousé Villemain Jean-Marie pour la promotion qu'il a obtenue à Haute-au-Coussin. Sur interrogation, oui, mon fils Sébastien est né 10 jours après le petit Grégory. Il a subi une intervention chirurgicale à l'âge de 18 mois, je pense, qui a consisté à l'ablation d'un kyste à la tempe gauche, ou plutôt à la droite. Il se rappelle plus. Il porte toujours un drain derrière l'oreille, mais il est invisible. Et il ne lui cause aucun handicap physique. Il reste suivi médicalement à l'hôpital Saint-Julien en Nancy. Sur interrogation, j'ai eu à une certaine période quelques difficultés dans mon ménage avec mon épouse, du fait même de son comportement. Mais nous n'avons jamais rompu et mon épouse n'a jamais quitté le domicile familial. Ça, c'est faux
Ouais,
aussi.
c'est faux. Je crois qu'ils avaient une période de séparation, non?
Dès les débuts du mariage, Marie-Ange dit qu'elle s'est séparée 15 jours, hein. Ou plus, je ne sais plus exactement. Mais...
Il dit du fait de son comportement. Donc là, il met en cause
Marie-Ange, oui.
le comportement. Ouais.
Question. Vous avez prétendu, lors des tests d'écriture sous dictée, n'écrire qu'en script. Pourquoi sur vos cahiers d'écoliers ou autres écrits, nous trouvons une écriture? Oui, réponse. Je n'ai jamais dit que je n'écrivais qu'en script. J'ai dit écrire le plus souvent en script. Quant aux fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est lorsque j'écris vite et sans me relire que j'en fais.
Et alors là, pour les gens qui nous écoutent, ils ont écrit sur le PV, il y a écrit Jean, J apostrophe A N, que j'en fais.
Que j'en fais, ouais. Eh ben, voilà. Sur interrogation, je précise encore une fois que ma voiture Peugeot 305 n'est pas verte, mais gris fumé. Ils lui ont posé 10 fois la même question, les gendarmes, ou quoi?
Apparemment, ouais, peut-être que c'était la technique aussi, c'est-à-dire on l'interroge. Et puis on fait revenir la question pour voir comment il réagit, peut-être. Hein.
Tout à l'heure, dans le passage, où, quand il faisait allusion à la façon d'écrire de Bernard, liée au cursive,
Oui.
quand il parle, il dit « c'est seulement quand j'écris vite que je fais pas de faute ». Ça fait allusion à la lettre de revendication, ça. Non? Croyez pas?
Ouais, c'est l'inverse de ce qu'on suppose, hein. C'est-à-dire on suppose qu'il a écrit vite et
Ouais, voilà, ouais.
que du coup il n'a pas fait de faute.
Et ça fait, dans la tête des gendarmes, ça fait allusion à ça, peut-être, non?
En tout cas, c'est particulier qui dit ça. Quand on écrit vite, on fait plus de fautes.
Oui, c'est pour savoir si il a écrit la revendication vite fait dans la voiture ou.
Ouais, c'est à mon avis, ça doit être ça, Bernard.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a écrit hein, le 1er novembre à 1h30 du matin. Donc, c'est une audition qui dure longtemps. Alors, donc là, il y a écrit hein, de 1h30 à 6h30 le 1er novembre 1984, Laroche-Bernard bénéficie d'un temps de repos au bureau de notre brigade. Donc là, il va dormir jusqu'à 6h du matin. À 6h30, entendant à nouveau l'intéressé. Depuis environ 6 mois, Michel et son épouse retournent le dimanche chez ses parents avec ses frères et sœurs. En effet, et cela doit remonter à 2 ans, Michel n'était pas invité au repas familial du dimanche. Michel a dû m'en donner le motif, mais je ne m'en souviens plus. On ne peut pas dire qu'il était vraiment fâché, car il voyait ses parents tous les jours du fait qu'il habite à côté, et il parlait à ses frères et sœurs lorsqu'il les voyait. Sur interrogation. Michel m'a certainement fait part du motif qui justifiait qu'il ne rendait plus visite à ses parents, mais je n'ai plus souvenance. Il me semble que c'est Michel, en accord avec sa femme, qui avait rompu les liens avec ses parents. Ce qui est étonnant, c'est que d'après ce qu'on sait, c'est plutôt Michel qui n'était pas convié, parce qu'apparemment il faisait des crises. Donc ça, c'est ce qui ressort des auditions de Monique et de Jean-Marie Villemain. C'était plutôt Michel qui n'était pas convié, et là il a l'impression, enfin on dirait qu'il change de version. Tout d'un coup, c'est Michel qui voulait plus y aller.
Moi, ce qui m'a intrigué, c'est depuis environ 6 mois, Michel et son épouse retournent le dimanche chez ses parents. Donc, j'ai fait 6 mois en arrière, de novembre à mai 84.
Ouais, là ce serait intéressant de regarder est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier en mai 84.
Voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Là, alors en mai 84, on a Jean-Marie responsable de deux mises à pied auprès de deux employés. Démarche entreprise par Jean-Marie pour obtenir ses prêts afin d'agrandir son habitation. Donc ça c'est mai 84. Isabelle Bolck quitte le domicile de Bernard et Marie-Ange après altercation. C'est toujours en mai. Et en juin 84. C'est Jackie et Liliane emménagent quai de la Vologne à Granges. Je peux regarder peut-être un peu avant. Avril 84, Ginette ignore le couple Annie et Jean-Paul Jacob. Mais sinon, il n'y a rien de particulier, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il aurait pu faire revenir Michel chez ses parents?
Il est exact que je connais bien la famille Villemain et que je connais les problèmes de cette famille par Michel et sa mère Monique. J'ai appris par cette dernière que Jean-Marie avait eu sa porte d'entrée détériorée, que les pneumatiques de son véhicule avaient été crevées. De plus, elle m'a mis au courant des lettres et des coups de téléphone reçus. Un jour que Michel était présent chez moi, il m'a annoncé que ses parents avaient reçu un coup de téléphone faisant état de la pose des rétroviseurs à leur domicile. Michel m'a précisé qu'il n'était pas au courant de cela. Par la suite, il m'a été reproché d'être passé devant le jour de l'installation devant la maison Villemain. Je ne me souviens pas d'être passé à cet endroit ni d'avoir vu les rétroviseurs. Je n'ai jamais su qui m'avait vu passer et ne m'en suis pas inquiété. Cependant, au cours d'une conversation, Albert m'a dit qu'un fils Noël de Haumonzé était également passé devant la maison ce jour-là. Alors là, c'est intéressant parce que ça a quand même alerté les gens que Laroche était passé ce jour-là. C'est pas passé inaperçu. Parce qu'il y a le corbeau qui va dire, on a essayé une fois de mettre tout ça sur le dos, mais ça n'a pas pris. Je crois que c'est à peu près ce qu'il dit. Hein.
Ça s'appelle autocoussin?
Ah bah c'était quand tu l'appelles autocoussin, c'est en 83. Parce qu'il lui parle aussi des rétroviseurs, il lui dit, il n'y a pas que moi qui étais au courant de ces rétroviseurs.
Il y a aussi quelque chose de super intéressant dans ce qu'il vient de dire. Hein. C'est un fils Noël qui passe aussi, hein, du coup. Et un fils Noël fait partie des quatre noms que Jean-Marie a donné au corbeau dans l'appel au Toucoussin, quoi.
C'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils lui ont quand même dit, bon écoute, Bernard, il y a le corbeau qui parle des rétroviseurs et toi t'étais là, quoi. Ça veut un peu dire ça. Hein. Donc ensuite, il continue. Hein. À ma connaissance, les premiers coups de téléphone doivent remonter au mois de septembre 1981. Je suis précis sur ce point du fait que je venais de commencer un stage de reconversion d'agent de maîtrise à Remiremont et que mon père se trouvait à l'hôpital. En transportant Monique, nous avons parlé de cela. En effet, cette dernière avait accusé ma cousine, Jacob Valérie, d'être l'auteur de ces appels, ainsi que ma belle-sœur, Bol Isabelle. Au cours du trajet, je lui ai dit qu'à l'avenir, il fallait qu'elle s'adresse à moi, et non pas à ma belle-famille. Je précise que Monique pensait que les coups de téléphone étaient donnés à partir de mon domicile. Elle savait que j'étais abonné au téléphone depuis janvier 1981. Par la suite, les coups de téléphone se sont faits plus nombreux et la famille Villemain a déposé plainte. J'ai appris cela par Michel. Au cours de l'enquête, il m'a également informé que sa famille avait demandé aux gendarmes à être mis sur table d'écoute. Personnellement, je n'ai pas été inquiété dans cette affaire. Ouais, donc il est au courant de tout.
Vraiment tout, vraiment tout, tout, tout.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit bien qu'à la période où il y a tous ces appels et que les appels vont se faire de plus en plus insistants, il est en train de faire un stage de reconversion. Et son père se trouve à l'hôpital. Donc lui, il est dans une phase un peu bizarre de sa vie. Hein. Son père est malade. Stage de reconversion, agent de maîtrise, ça veut dire qu'il est en période de chômage. Du coup, il faudrait connaître aussi les horaires, quoi. Parce que c'était peut-être 2, 3 fois par semaine, c'était peut-être pas tous les jours. Et apparemment, il a dit à Monique aussi de s'adresser à lui et pas à sa belle-famille. Donc ça voudrait dire que Monique s'est adressée directement au bol, éventuellement.
Donc, Monique, ce qu'elle a fait, elle a téléphoné à Valérie Jacob, déjà, en premier lieu, et en deuxième lieu, elle a appelé la famille Boyle.
Donc c'est bizarre, ça voudrait dire que Monique se serait adressée à des bols, quoi. Donc il sait qu'ils sont sur table d'écoute, enfin il est au courant de tout, quoi.
Exactement.
Le déclenchement de cette enquête a permis aux Villemain d'être tranquille quelque temps. Plus tard, Michel m'a informé que l'anonyme se manifestait maintenant par lettre et non plus par téléphone. J'ai vu personnellement l'écrit dans lequel il était mentionné « J'arrête, je me suis vengé ». C'est Albert Villemain qui me l'avait montré. Nous étions seuls et il m'avait amené dans la salle à manger pour me montrer la lettre. Nous sommes retournés à la cuisine, Michel était présent. Nous en avons parlé et aucun détail précis n'a filtré, ou alors je ne m'en souviens plus. Question. Le fait que le corbeau indique « je me suis vengé, j'arrête » a dû être le sujet de conversation. Réponse. Aucune allusion à ces propos n'a été faite. En refaisant les tests, une phrase identique m'a remis en mémoire que ces termes figuraient dans la lettre. En début de cette année, sans pouvoir être précis sur le jour exact, Michel est venu me voir à mon domicile très énervé. Il m'a annoncé qu'il venait de recevoir un coup de téléphone, lui déclarant que j'étais le père de son enfant. Je lui ai simplement dit que j'espérais qu'il ne croyait pas ses propos, et Michel m'a répondu « Non, j'ai confiance en toi et ma femme ». Nous en avons reparlé quelques jours plus tard alors que nous faisions une coupe.
Le corbeau, quand il appelle Ginette et Michel, c'est plutôt pour l'accuser que Ginette trompe Michel, quoi. Mais du coup, qu'il était le père de son fils, alors ça, par contre, c'est une surprise.
Et en début de cette année, donc c'est début 84, alors que le corbeau se manifeste plus trop, quoi, que Michel mentionne à aucun moment cet appel.
Donc en fait, il continue de s'en passer des choses en 84, quand même.
Et qui dit vrai, quoi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Bernard qui raconte des trucs bizarres? C'est-à-dire Bernard qui essaye aussi de jouer la victime du corbeau, quoi.
Parce que Michel n'a jamais raconté ça. Non.
Non. Et ce que Michel raconte, c'est différent. Il dit que le corbeau a dit « Ta femme te trompe avec Popov ».
Il n'y a jamais question qu'il soit le père de son fils, quoi.
Oui, c'est vrai.
Enfin, c'est violent, quand même.
À moins que ce soit Michel qui est... Et qui a exagéré quand il va voir Bernard, quoi. Qui dit « Ouais, il a dit... » Parce que lui-même a un doute, peut-être, sur son fils.
Parce que... On est plus ou moins sûr qu'il y avait une relation entre Ginette et Bernard, d'après Simon.
L'appel Popov, c'est le 13 décembre 81. Donc là, il y a quelque chose qui cloche, parce qu'il dit en début d'année, donc on est en 84. Bizarre, là, typiquement, il faudrait questionner Michel, ou même Albert, Jean-Marie, je sais pas, pour savoir ce qu'il en est, quoi. Avez-vous eu des rapports ou voir un flirt avec Ginette? Alors il dit, je suis affirmatif, il n'y a jamais rien eu de tout cela. Je pense que la personne qui a téléphoné à Michel devait bien me connaître, puisqu'il a dit, c'est Popov, le père de ton enfant. Il n'y a que dans le milieu familial que l'on me surnomme ainsi. Sur les lieux de mon travail, on me surnomme Caillou, de par mon nom, La Roche.
Oui, donc en fait, oui, c'est le même appel que Michel dit, hein, c'est Popov, le père de ton enfant. Et
ce qui est bizarre, c'est que l'appel, c'est en 81, et lui dit que ça se passe en 84.
Ça, c'est les dates qui ne correspondent pas, en fait.
Pourtant, tout le monde est plutôt affirmatif sur ce point, quoique c'est bien en 81. Alors, j'ai été convié à la table des Villemain à deux occasions, pour une partie couscous à la salle de la chapelle d'Aumonzé, invité par Michel, et à l'occasion d'un méchoui, fin juillet de cette année, à l'étang du Rayot, à Granges-sur-Vologne. Cette fois, c'était Jacob André qui m'avait invité. À mon avis, au cours de ces deux repas, toute la famille Villemain était réunie, sauf Jackie, qui est toujours exclue. Je reviens sur mes dires en ce qui concerne la première soirée. J'ignore si le repas était constitué d'une choucroute ou d'un couscous.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il a été convié deux fois seulement à la table des Villemain.
Ouais, parce qu'on est en fin d'année en plus.
Il n'a pas été beaucoup invité, quoi, je veux dire, Bernard.
Et puis à chaque fois, il est invité soit par Michel, soit par André.
Ouais, pas par Monique et Albert, ou tu vois, ils n'étaient pas si proches que ça, quoi, je veux dire.
Alors, ok, donc il ne sait pas trop insister une choucroute ou un couscous. Ensuite, il veut dire, le 19 octobre 1984, en rentrant de mon travail à 5 heures, j'ai informé mon épouse des renseignements que j'avais obtenus par un ouvrier turc. Jackie, Liliane et leur fils avaient été vus sortir de leur domicile à 5h10 le matin du crime. J'avais conseillé à mon épouse de vous en référer, ce qu'elle a fait, depuis un café chez Le Bédel, à Aumonzé. Donc ça aussi, c'est très particulier, quoi.
Ouais, parce que là, il dit le matin du crime, mais en réalité, c'était le 17, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En réalité, c'est le 17. Ouais.
Ouais.
Et puis en plus, la scène en entier est bizarre, parce que pourquoi dira Marie-Ange d'appeler depuis le Bédel alors qu'il a un téléphone chez lui?
Bon, il dit, mon épouse de vous en référer, c'est ce qu'elle a fait depuis un café chez le Bedel, en Mosée. Tu vois, donc
Ouais.
c'est pas lui qui lui a dit d'aller chez le Bedel.
Mais non, non, je dis la situation est bizarre en soi, quoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Marie-Ange va l'appeler le Bedel alors qu'elle peut appeler depuis chez elle?
Ah oui, ça, je suis d'accord, oui.
Surtout pour leur dire ça, c'est pas vraiment un élément à, je veux dire, choque personne, quoi.
De toute façon, il lui pose la question par la suite.
Alors, on fait une petite pause parce que là, on est à 2 heures de. 2 heures d'enregistrement, donc si vous voulez vous décontracter un peu.
Ah.
Ouf.
Tu vas faire quoi?
Ah.
Tu coupes entre deux ou
Je
tu coupes l'enregistrement?
Et finalement, ce jour-là, on a décidé de faire une pause parce que c'est vrai que les PV de Bernard, c'est les plus complets, hein, les plus denses. Donc on va le faire en deux parties et je vous invite à vous abonner au podcast. Et puis bientôt, on vous mettra la partie 2 donc, du brainstorming sur les PV de Bernard Laroche. Et puisque vous avez écouté jusqu'à la fin, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.